Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un quatrième volet de cette série intitulée, et c'est le titre aussi d'un ouvrage, Sortir de la honte, paru aux éditions L'Harmattan. C'est son auteur que vous découvrez depuis cette semaine, diacre depuis 40 ans, marié et veuf depuis 10 ans, père de famille, et vous avez, et on peut tout découvrir, hein, voilà, l'intégralité aussi, entre autres, de votre témoignage, et puis vous donner des paragraphes, des pistes, et aujourd'hui, dans ce quatrième épisode, je vous propose José Hérisson, c'est incontournable, pour guérir en profondeur, il est important donc cette reconnaissance des torts et la justice peut être une de ces étapes indispensables. Alors, on va en parler maintenant, aujourd'hui. Pourquoi ce processus, José Hérisson, est-il si important? Comment vivre sans s'épuiser? Et puis, au fond, pourquoi demander justice dans ce processus, en vue de la libération, en vue de la restauration et en vue de retrouver toute sa dignité d'homme ou de femme? C'est incontournable, il faut à un moment donné déposer ce dossier et faire appel à la justice des hommes, bien sûr justice de Dieu, justice des hommes, cette justice restauratrice dont vous parlez aussi dans votre ouvrage et cette justice aussi de l'Église. Et merci.
Oui, alors c'est peut-être l'Église qui m'a rendu justice en premier. J'en ai parlé à mon évêque. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, j'aimerais qu'il me demande pardon au nom de l'Église. Ce qu'il a fait bien volontiers. Bon, même si la justice de l'Église n'est pas parfaite, c'est quand même un point important, ça a été un point très important pour moi. Ensuite, j'ai appris par mon accompagnateur que l'Église avait aussi une justice restauratrice. Je l'ai su il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans, en rencontrant une personne qui m'accompagne dans mes demandes de compensation financière auprès de l'Église, qui m'a proposé quelqu'un pour m'accompagner dans cette démarche. Voilà. Et alors, la justice restauratrice consiste à mettre, si possible, en contact l'agresseur et l'agressé, à condition que l'agresseur reconnaisse ce qu'il a fait. Bon, dans mon cas, ça n'a pas été le cas, mais ça aide pas mal de personnes. Voilà. Mon agresseur était décédé depuis longtemps. Et puis, de toute façon, il n'a pas reconnu. Je lui ai écrit. Je lui ai écrit quand j'ai commencé à lui demander pardon. Je lui ai écrit pour le lui dire. Pardon, quand je m'embrouillais, excusez-moi. Quand j'ai commencé à lui pardonner, je lui ai écrit pour le lui dire. Mais il ne m'a pas répondu. Bon, dommage. On aurait pu nouer un contact. Et ça aurait été de la justice restauratrice. Voilà. Alors ça a commencé surtout en Afrique du Sud. Après l'apartheid, il y a eu l'Église a organisé des rencontres dans ce sens de justice restauratrice. Alors l'intérêt, c'est que c'est un processus qui permet à la victime d'être reconnue de façon plus large
et d'ailleurs,
et de réparer sa blessure.
Et dans votre ouvrage, page 92, vous présentez donc ce tableau des avantages présentés par la justice restauratrice pour la victime, pour l'agresseur et pour la société. Ce tableau est très clair, limpide et donne aussi un bon résumé.
Oui, alors je ne dirai pas tout, mais ça permet à l'agresseur de... Je dis, pour l'agresser, c'est très important. Ça lui permet de réparer sa blessure. pour l'agresseur, ça lui permet aussi de se réintégrer dans la société. Voilà, ça c'est important. Parce que la justice se préoccupe souvent de punir, mais ce n'est pas suffisant. La punition est nécessaire, souvent.
Alors, avec un peu de recul, est-ce que ça fonctionne, cette justice restauratrice pour les agresseurs ? Là,
oui.
je pense aux agresseurs.
Oui, ça fonctionne souvent bien, mais pas toujours. Mais je vous dis, ça dépend de la bonne volonté, surtout de l'agresseur.
Voilà, donc faut que l'agresseur soit dans cette dynamique de vouloir faire ce chemin.
Oui, ouais. Tout à fait.
Ah oui.
Et ça fonctionne même en prison.
Vous en avez rencontré ?
Ça peut se passer en prison.
Vous en avez rencontré ?
J'ai rencontré, donc je vous disais, un accompagnateur qui m'a raconté un peu des... Enfin, de loin, il ne m'a pas dit les noms ni ce qu'avaient fait les personnes, mais... Voilà, il m'a raconté ce processus, oui.
Est-ce que vous vous rencontrez régulièrement entre personnes qui ont été des victimes ?
Oui.
Voilà.
Oui, pas très régulièrement, mais de temps en temps.
Et c'est important, ces rencontres sont importantes.
Ah oui, parce que ça donne du recul par rapport à ce qu'on a vécu. On s'entraide aussi pour obtenir une réparation. Voilà, où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, est-ce que tu as fait telle démarche, etc. Voilà, on peut s'aider. Puis on se comprend. On se comprend avec solidarité.
Pour vous, quelle est la réparation la plus importante ? Est-elle sur un point financier ou
non.
Un point...
Non.
Non.
Mais j'ai demandé une
en
réparation
votre nom, oui.
Pour aider une personne, je ne vous dirai pas qui.
Mais, je ne vous demanderai pas les noms.
Mais cette somme d'argent, je pense que je n'ai pas obtenue d'ailleurs encore, mais ça va venir, je le crois. Mais ce sera pour aider une personne qui a été agressée elle-même. Pour l'aider à suivre une psychothérapie. Voilà. Parce que c'est aussi une façon de...
Parce que pour toute personne victime de ces agressions, c'est incontournable. Il faut passer par des soins, un accompagnement de professionnels.
C'est une bonne chose.
C'est conseillé ?
Oui, je le conseille, moi. Mais ça peut être aussi un ami, condition qu'il ait une écoute profonde. Ça peut être un prêtre, ça peut être un diacre. Ça peut être... Il faut que ce soit une personne avec laquelle l'agressé se sente à l'aise et qui ait un peu de recul. Donc un professionnel, c'est une bonne chose.
Alors vous êtes diacre, je vous ai présenté, oui. José Risson comme diacre. Vous êtes un diacre un peu connu aussi, puisque
oui.
Ça fait 40 ans aujourd'hui, pour le diocèse de Toulouse. Vous avez été dans votre parcours aussi agressé par un prêtre.
Oui.
Dans votre histoire d'appel au diaconat, vous êtes posé beaucoup de questions, parce qu'au fond, vous avez, en devenant diacre, vous avez rencontré aussi beaucoup de confrères prêtres ordonnés avec votre
oui.
passé, votre histoire, vos blessures. Comment vous avez pu ajuster et aller jusqu'au bout de l'ordination diaconale, sans être entravé par les blessures connues par l'agresseur qui était un prêtre?
Oui. Alors, en général, je suis à l'aise avec les prêtres, sauf les prêtres en soutane, parce que ça me rappelle trop ce que j'ai vécu. Alors là, ça m'est difficile encore. Bon, peut-être j'y arriverai, mais ça m'est difficile. Oui, puis vous me demandiez, j'ai oublié le début de la phrase.
Non, je vous demandais essentiellement pour ce prêtre qui a abusé, mais qui n'a pas reconnu, ce que vous avez dit dans cette... Vous auriez voulu entendre ce pardon.
Ah oui. Oui.
Et vous en rencontrez des prêtres qui ont été des agresseurs depuis, puisque vous êtes l'écoutant.
Oui. Oui, mais ça m'a pas été difficile, non. Mais c'était pas la même époque aussi.
Aujourd'hui,
je pourrais en rencontrer, oui.
Ouais.
Oui.
Et vous en rencontrez ou pas ?
Pas récemment, mais il m'est arrivé d'en rencontrer, hein, oui. Du diocèse. Oui.
José Ressong, je vous propose de nous retrouver dès demain pour la suite de cette série. Et puis on entend bien dans ces quelques minutes, ce quatrième volet, que pour toute personne victime, oui. Il est important d'aller jusqu'au bout, de traiter le dossier jusqu'au bout. Ah cette oui. justice aussi humaine, hein, qui passe aussi par l'État, et puis cette justice aussi qui restaure, cette justice aussi devant Dieu. Donc, n'ayez pas peur, chers auditeurs,
oui,
si vous êtes concernés.
On peut parler de la justice humaine, mais on pourra en parler.
On peut en parler.
Un autre jour.
Et je vous dis à demain, José.
Oui, merci Nathalie.